Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 145 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. L'environnement macroéconomique confronte les organisations à une multitude d'enjeux. Les développements technologiques, les changements climatiques, les conflits géopolitiques, en plus des différentes pressions inflationnistes, complexifient les options stratégiques des organisations. À l'épisode d'aujourd'hui, on vous propose une discussion sur ces sujets afin d'alimenter vos réflexions pour avoir du succès dans un monde de plus en plus vicat. On vous propose donc de prendre un moment avec nous afin de réfléchir et planifier votre année 2024. Et avant de débuter, si vous aimez nos épisodes, vous aimerez certainement notre lettre hebdomadaire où l'on explore les différents thèmes du podcast et où on partage nos réflexions afin de développer votre perspective stratégique. Abonnez-vous en suivant le lien en description. Ceci dit, allons-y. Bonjour Jean-François.
Bonjour Éric.
Jean-François, clairement, on évolue dans un monde que tu appelles très bien VICA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Et j'aimerais décortiquer avec toi quelques éléments clés de 2023 et mettre la table sur qu'est-ce que nous prépare 2024 et les années à venir. Question d'explorer certains impacts, certaines opportunités et enfin discuter ou explorer certains moyens ou alternatives pour être proactif face à ce monde volatile, incertain, complexe et ambigu.
Tout à fait.
D'abord, l'état des lieux. Débutons par quelques événements marquants dans le monde des affaires en 2023. Évidemment, on pourrait faire un podcast de 45 minutes sur une panoplie d'éléments. J'aimerais peut-être qu'on retienne certains des éléments qui peut-être ressortent de façon plus systématique ou plus importante.
Ou plus marquante, oui.
On sort évidemment de la COP28, donc peut-être qu'on peut parler comme premier élément tout ce qui est changement climatique et impact sur les ressources naturelles.
Oui.
Et aussi sur ses impacts sur l'industrie alimentaire.
Tout à fait.
Comme premier élément, impact majeur sur la production, impact majeur aussi sur la demande, bouleversement par rapport à l'accessibilité de différentes ressources naturelles.
Oui.
Ça vient affecter le secteur énergétique aussi. L'agriculture, dans ce sens-là, est affectée par les différentes conditions climatiques qui sont de plus en plus imprévisibles.
Oui.
Je pense que c'est une donne qui est importante, qui affecte les populations, qui affecte aussi les chaînes d'approvisionnement. Comment qu'on peut bâtir un petit peu sur cette idée-là? Je te laisse aller.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de volatilité dans ces dernières années sur ces choses-là. Là, je pense qu'il y a eu les contre-coups de la crise de la COVID aussi, où ça a été un choc très important à la fois sur l'offre et sur la demande. Donc, c'est assez impressionnant parce que d'autant plus qu'on n'avait jamais vu ça. Mais on voit aussi ces temps-ci que le prix des métaux a tendance à baisser en 2023, voire se stabiliser. Les oracles pour 2024 ne savent pas trop de quel côté ça va continuer, si ça va continuer à baisser ou... Tout dépend un peu de la demande chinoise, si elle va reprendre ou si elle stagne ou si elle va décroître. Ça va être un peu difficile à voir. Puis encore une fois, la hausse des taux d'intérêt influe beaucoup sur la construction, les mises en chantier dans beaucoup de pays qui sont un grand, grand consommateur de matières premières. Donc, je pense qu'il y a probablement encore un peu de tassement du côté de ce côté-là. Mais du côté des denrées alimentaires, bon, on a vu une grosse poussée inflationniste, ici en Europe en tout cas, très fortement probablement corrélée aux hausses du prix de l'énergie et au retrait forcé ou à ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, là, du côté de sur certaines choses. Et puis comme tu dis, effectivement, les événements, les fluctuations, on parle de volatilité quand on parle de marché. Je pense qu'on peut parler de volatilité climatique. Je pense que c'est intéressant, ça. Je viens d'avoir un nouveau concept, volatilité climatique. Mais je pense que ça y est pour beaucoup dans cette fluctuation-là des prix de certaines denrées alimentaires. Donc, et je pense que ça, c'est là pour rester. Ensuite, bon, la COP28, comme tu dis, il y en a une chaque année. Celle-ci est importante. Je pense qu'on a franchi un pas. Plus vite, pas assez vite, trop vite. Bon, je vais pas porter de jugement là-dessus, mais ma perspective, c'est l'important, c'est de commencer à en sortir et d'accélérer cette sortie d'utilisation d'énergie fossile à très grande échelle. Donc ensuite, pour y arriver, il va falloir continuer d'investir pour rendre ces énergies renouvelables encore moins chères, plus faciles à utiliser, sans doute aussi transformer notre infrastructure énergétique, développer le stockage, enfin tout un ensemble de choses. Et puis, il va falloir continuer à travailler sur l'acceptabilité sociale des solutions pour nous permettre de nous adapter à ça, qui commencent à s'imposer, mais qui sont pas nécessairement faciles. On parle de changements à très large échelle dans nos sociétés et on s'aperçoit que c'est pas toujours très, très bien accepté. Et puis, la dernière remarque que je veux faire, c'est ces derniers mois, on a commencé à parler d'hydrogène blanc, c'est-à-dire d'hydrogène qui serait présent à l'état naturel dans la croûte terrestre. Moi, je découvre ça, je dis « Ah non, ça se peut pas ». Tout le monde nous dit « Ben oui, ça fait 20 ans qu'il y a un puits comme ça au Mali qui alimente un village ». Bon, d'accord. Et puis, qu'il y en aurait ici en France, t'imagines. Donc, c'est... pour moi, c'est premièrement une révélation et deuxièmement, ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Comment est-ce que le modèle économique pour l'extraire, le stocker, le transporter et l'utiliser peut se dérouler. Comme c'est tout nouveau, je pense que ça va se faire dans les prochains trimestres. Disons parlons de trimestres plutôt que de semaines ou d'années.
Je veux compléter, si on peut dire, la discussion sur le premier élément. Donc, quand on parle de quelques événements marquants du monde des affaires en 2023, il y en a deux autres que je veux soulever. Mm-hmm. Le premier, évidemment, les conflits géopolitiques. On peut autant parler de l'Ukraine que Gaza. Évidemment, ça influence le commerce mondial de façon directe ou indirecte. Ça polarise beaucoup. Ça fait en sorte que ça amène un élément d'incertitude additionnel. On a déjà l'élément climatique qui... comme tu viens très bien de l'exprimer, qui engendre beaucoup d'incertitudes. Mais les conflits géopolitiques aussi, c'est pas très bon pour la business, comme on peut dire. Peut-être pas pour le côté d'armement, ça c'est une autre chose, mais c'est peut-être pas le côté qu'on veut promouvoir. Donc, le conflit géopolitique est important, ça a une influence, et ça amène aussi, en trame de fond, certaines tensions commerciales qui pourraient y avoir sur des enjeux technologiques. Donc, on sait qu'il y a eu dans les dernières années, dans les dernières décennies, plutôt une focalisation des pays en fonction de certains éléments de production. On sait que la Chine est, d'une certaine façon, la manufacture du monde à bien des égards, autant pour les produits manufacturés que les technologies aussi. Mais évidemment, quand il y a des tensions commerciales et technologique aussi entre ces blocs au niveau des différents, que ce soit le bloc asiatique, le bloc chinois et par exemple l'Amérique du Nord ou l'Europe, mais ça engendre une autre couche d'incertitude qui ultimement va se répercuter à travers les biens de consommation, à travers les services qui sont consommés, à travers les prix qui sont payés. Donc pour moi, géopolitique, tension commerciale, éléments, tensions technologiques, c'est tous des éléments là, que je pense qu'ils sont en train de fond, qui sont très, très, très importants et auxquels il faut garder un œil parce que ça va ultimement avoir une incidence sur nos opérations, sur notre stratégie d'entreprise.
Tu as parlé de la guerre en Ukraine, dont on parle encore beaucoup dans les médias, les événements en Israël et à Gaza qui ont cours en ce moment. On pourrait en rajouter les tensions en mer de Chine, les tensions autour de Taïwan. Il y a de 4 ou 5 autres petits endroits où ça chauffe. C'est très tendu. C'est très préoccupant, bien sûr. Cela dit, le prix du pétrole semble s'installer durablement dans sa fourchette de prix que j'appelle moins naturelle, à tort ou à raison, entre 60 et 80 US le baril. Donc, on voit que les marchés réagissent avec une certaine forme de tempérance par rapport à ces événements-là. Bon, on n'est pas à l'abri d'une autre réaction ou quoi que ce soit. Mais ce que je pense que, comme tu dis aussi, ces tensions géopolitiques-là amènent beaucoup d'entreprises, de gouvernements, d'organisations à revoir un peu leur façon de faire et avec qui ils veulent faire. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard.
Effectivement.
C'est très important. Ouais.
Il y a donc le côté macro, le côté géopolitique qu'on a parlé. J'aimerais peut-être faire un saut du côté, qu'est-ce qui s'est passé du côté des technologies en 2023 notamment. Il y a des éléments qu'on connaît tous, il y a des éléments qu'on va certainement découvrir ensemble. Évidemment, tout ce qui est côté intelligence artificielle et générative, Je pense que c'est tout le monde s'est réveillé en 2023 et a appris que l'automatisation par les ChatGPT, les Bard, les Gemini de Google ou toutes les versions qui en découlent peut apporter énormément de bénéfices. Ça peut transformer l'activité humaine. On ne sait pas où est-ce que tout ça va nous mener. On va en parler tantôt, mais clairement, ça a eu l'effet vraiment d'un tremblement de terre en termes du potentiel qui existe autour de ça. Premier élément.
Oui.
Il existe des discussions ou des développements du côté de la santé quand on parle de recherche au niveau de virus qui peuvent peut-être affecter positivement certaines maladies ou traiter certaines maladies. On peut penser au métavers pour le côté santé mentale qui se développe aussi. Donc, il y a des recherches, des choses intéressantes qui se font de ce côté-là. Deux derniers éléments peut-être que je veux soulever avant de te laisser la parole. Le côté des piles souples, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en tant que tel. Donc, des batteries qui sont fabriquées dans des matériaux légers, qui peuvent être tordus, pliés et tirés, et qui fait en sorte que on peut concevoir des appareils différents, des écrans d'ordinateur enroulables, etc. Donc, il y a des choses qui se font de ce côté-là. Et évidemment, le dernier point, peut-être, si on fait la suite par rapport à quand on parlait de COP28, ben, que la recherche de carburants alternatifs nous amène vers des carburants d'aviation durables. Donc, il y a de la recherche qui se fait de ce côté-là aussi. Je trouve ça très intéressant, tout ce qui bouge en trame de fond, ce qui se prépare dans la cuisine des différents laboratoires organisationnels. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui existent de ce côté-là.
Du côté du photovoltaïque et du côté de... Encore une fois, moi, l'augmentation de la puissance des éoliennes qui se fait non plus du côté mécanique, mais du côté software, du côté de la gestion de ces machines-là, c'est assez impressionnant. Comme tu dis, les piles souples, toutes les technologies autour du stockage de l'énergie continuent à se développer à très grande vitesse, à voir leur coût chuter, leur densité énergétique augmenter et leur visiblement leur propriété mécanique, comme tu dis, leur souplesse, la façon de les façonner continue à évoluer aussi. Je suis très 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 optimiste et très positif de ce côté-là. Du côté des carburants d'aviation, moi je vais citer le responsable du Innovation Lab de chez Total Energy que j'avais vu en conférence un petit peu plus tôt cet automne, qui disait lui, de toute façon, tout ce qui est bioéthanol, tout ce qui est biodiesel, tous les biocarburants vont probablement sortir du monde du transport, entre guillemets, de personnes, automobiles, pour rentrer directement dans le secteur de l'aviation. Et donc, l'aviation va prendre ce virement durable-là, continuant à diminuer ses émissions, entre guillemets, par kilomètre parcouru, par siège, mais aussi en verdissant, entre guillemets, ses émissions, en brûlant quelque chose qui a déjà absorbé du carbone. Et puis, bien sûr, toutes ces questions-là, on parle de métavers, on parle maintenant beaucoup en association avec Meta ou avec les réseaux sociaux. Je pense que les belles applications de métavers sont encore à venir. On les voit dans le développement des nouveaux trains, des nouveaux avions, des nouvelles voitures, des nouveaux gros produits qui sont importants et qui nécessitent des très gros investissements. Je pense que ça aussi, ça va se démocratiser à vitesse grand V depuis l'arrivée des grandes, grandes puissances de calcul que ChatGPT et l'intelligence artificielle permet. Toutes les technologies sous-jacentes derrière ça que je connais pas, que je maîtrise pas très bien, mais qui sont vraiment époustouflantes et qui vont, je pense, permettre des très, très belles avancées de ce côté-là.
Je complétais notre discussion sur l'aspect des technologies par quelques autres éléments que je pense qui sont importants. Et je veux souligner un point. Évidemment, la discussion qu'on a présentement, pour être en mesure de discuter de comment on peut adresser ou aborder ces enjeux-là, mais je pense que c'est toujours important pour tout gestionnaire dans toute organisation, de toujours garder un œil sur l'environnement macroéconomique, sur les tendances qui existent. On en a parlé plusieurs fois à travers le podcast. Évidemment, aujourd'hui, on se fait plaisir. On fait le tour d'horizon parce que, bon, c'est la fin d'année, c'est un bon prétexte pour pouvoir le faire. Mais c'est une réflexion, je pense, qui doit se faire en continu dans les organisations. Et ceci étant dit, si je veux continuer en termes de tendances technologiques, ce qui est notable, du moins en 2023, bien évidemment, on a déjà parlé de la 5G, mais la 5G, je disais les derniers papiers dernièrement, on parle de complètement. On parle de 6G, on parle de 7G, de qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là. On sait que du côté mm-hmm. Wi-Fi, les vitesses et la capacité de transfert augmentent à vue d'œil. C'est tous des éléments, je pense, qui sont importants, qui vont venir augmenter la capacité de connectivité en termes des appareils, mais accès aussi à l'intelligence artificielle, l'accès à cette analyse virtuelle ou ces capacités de traitement d'informations qui vont être de plus en plus grandes. Donc, par rapport au système d'IA adaptatif, ben, il y a beaucoup de développements qui vont continuer à se faire et il faut rester à l'affût. Il y a beaucoup d'applications qui existent et qui continuent à se développer. Beaucoup vont disparaître. Évidemment, ça me fait penser un peu au Far West du e-business des années 2000.
C'est normal.
C'est tout à fait normal. Ça amène évidemment la question du risque associé à l'IA. On en parle souvent, que ça soit par rapport à l'utilisation positive de ces technologies-là pour augmenter notre capacité de création. Mais évidemment, tu as fait l'épisode avec Matthew Cohen quand on parlait de tout ce qui était cyberattaque et cybersécurité. Oui. Mais évidemment, ces outils-là peuvent être utilisés à mauvais escient aussi. Donc, il faut baliser. Ça m'amène à penser aussi au côté éthique, au côté utilisation responsable. Donc, c'est tant qu'on le dit, c'est un peu le Far West. Il faut trouver le bon équilibre entre ne pas étouffer le potentiel qui existe, tout en étant conscient des enjeux qui existent et bien les encadrer. Et je compléterai ma perspective quand on parle de tendances technologiques. Ben, c'est tous les éléments de durabilité, changements environnementaux et sociaux, comment qu'on peut garder ça en trame de fond aussi. Faut pas oublier que il y a des humains qui travaillent dans les organisations, qui consomment, qui vivent, et en bout de ligne...
Qui se déplacent.
Ouais. C'est ça. Donc, moi, je me rappellerai toujours de la triade de la qualité totale. On parle des organisations, on parle des clients, et on parle de la communauté des gens, des parties prenantes qui sont dans lesquelles il faut trouver un équilibre. Donc, pour moi, ça reste un thème central à toute cette évolution-là.
J'en rajouterai pas sur ce que tu viens de nous dire. On parle de développement durable, de changement, enfin de réaction ou de décarbonation de nos activités. Il y a tout un ensemble de choses. Mm-hmm. J'aime beaucoup inviter des gens sur le podcast pour venir nous parler de comment ils le font. Je pense aussi que ici en Europe, on voit bien qu'il commence à avoir un problème d'acceptabilité sociale derrière ça, qui pousse les gens vers des solutions politiques plus populistes ou plus, disons, appelons-leur peut-être un peu plus simplistes. Il n'y a pas de réponse simple à ces problèmes qui sont complexes. Ce sont des complexité, on parle de Vika, Laurent Bibard, dans son podcast, nous disait bien que finalement, tout ce qui se cache derrière ça, finalement, c'est une augmentation de la complexité. Eh bien, pour trouver des solutions à des problèmes complexes, on a besoin de, un peu comme Cédric le disait, de solutions plus participatives, plus centrées sur l'usager ou l'utilisateur. Et une des choses que je pense qu'il faut le retourner, le voir, c'est quoi cette différence-là entre l'usager et l'utilisateur. Je veux continuer à approfondir ça. Et des questions de diversité aussi. Mais on le voit bien. Ça va être un des éléments clés, l'acceptabilité sociale de cette transition vers un développement plus durable et vers des activités économiques plus durables. Et puis après, sur les questions de comme tu dis, de Far West. Effectivement, il ne faut pas attendre après les gouvernements, même si l'Europe, je trouve que l'Europe est très proactive dans ce domaine-là, à peut-être à ses risques et périls, parce que justement, les populistes ici en Europe utilisent l'Europe pour dire « ils nous empêchent, nous, les États-nations, de vivre ». Je pense que c'est important quand on est face à des choses qui évoluent aussi vite que ça et qui sont aussi, entre guillemets, dangereuse que ça, dans les expérimentations que nous tous allons faire avec ça, il faut rester extrêmement vigilant. Si jamais on a des deepfakes audio, par exemple, quelqu'un qui utilise les voix de Barack Obama pour dire n'importe quoi, entre guillemets, ça peut poser des gros, gros problèmes.
Tout à fait.
Au niveau de la confiance que les gens ont dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils entendent, dans ce à quoi ils font confiance. Et ça, c'est un élément, je pense, c'est le défi important et intéressant des prochaines années avec l'arrivée rapide et le développement très rapide de ces systèmes d'intelligence artificielle génératifs, adaptatifs, enfin, il y a tout un ensemble de choses. Et qui, eux, portent aussi leur propre biais. Donc, on va continuer à explorer ça en 2024.
Évidemment, ça, c'est le premier volet, donc c'est un peu l'état des lieux de ce monde volatile, incertain, complexe et ambigu. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est à ce moment-là, quelles sont les approches qui sont préconisées par les organisations pour s'adapter à ces bouleversements-là? Et là, j'aimerais peut-être avoir une discussion en deux temps, peut-être dans un premier temps, aborder le portrait des grandes sociétés et dans un deuxième temps, ben, évidemment, le côté des PME qui est peut-être différent parce qu'évidemment, il y a une question de taille, il y a une question de ressources qui vient jouer. Donc, peut-être les réponses vont être légèrement différentes. Si on prend le côté des grandes sociétés, ben moi, je retiens, j'ouvre la porte, si on peut dire, au moins à trois grands thèmes. Évidemment, les transformations de chaînes d'approvisionnement, comme étant le premier grand thème. Évidemment, on a parlé de tensions géopolitiques. Ça amène à repenser les grands blocs de fournisseurs, de comment on travaille à travers avec nos différents partenaires pour assurer une certaine forme de résilience. C'est un premier point. Le deuxième, rapidement, ben, l'intégration du risque dans les stratégies d'acquisition des investissements. Sans aller trop explorer cette question-là, notamment, j'inviterais peut-être les auditeurs à écouter la série de podcasts qu'on a faite avec Stephen Blank, qui parle justement de ces éléments-là de risque géopolitique. Et par la suite, bon, on peut explorer le côté cybersécurité, côté ressources humaines, développement des ressources humaines, développement des talents, garder les ressources. Je pense que c'est des thèmes qui sont quand même assez pertinents, mais surtout d'actualité. Et au final, comme tu l'as mentionné tantôt, garder un fil conducteur en termes de création de valeur pour les différentes parties prenantes. Trouver cet équilibre-là entre besoins économiques et besoins d'environnement sociétal qui existe autant pour les employés que comme acteur sociétal qu'une entreprise peut avoir. Sur toutes les grandes sociétés, je lisais un papier tantôt qui comparait la valeur boursière de Apple à l'ensemble du marché économique français. Je trouvais ça quand même, on parle de poids extrêmement lourd au point de vue économique. C'est des entités économiques qui sont aussi grosses et sinon plus grandes que certains pays. Donc c'est fascinant de voir ces enjeux-là qui peuvent prendre forme à travers ces acteurs-là, qui sont des acteurs qui ont énormément d'influence à travers les différentes sociétés et pays en tant que tels.
Je vais mettre dans les notes là, une référence pour montrer un peu l'évolution de ces valorisations boursières, certains de ces, entre guillemets, je vais les appeler des mammouths, c'est même plus que ça, c'est des titans, entre guillemets, boursiers. Effectivement, la valorisation boursière d'Apple dépasse le PIB annuel de 98% des pays mondiaux. À part la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, ça fait déjà longtemps qu'on dit que la Californie a un PIB supérieur à celui du Canada. Juste pourtant, la Californie, quand on parle de géopolitique, la Californie a autant de sénateurs au Sénat américain que le Rhode Island ou que l'Alabama ou que le Mississippi. C'est juste pour vous dire jusqu'à quel point, des fois, ces choses-là sont intéressantes à suivre et voir un peu comment ça peut se développer, tout ça. Tu parlais de relocalisation, de transformation, je pense, profonde et probablement durable de chaînes d'approvisionnement sous ces forces tectoniques que sont le développement durable, la décarbonation, le friendshoring. Tu me parles de friendshoring, je trouve ça admirable, j'adore ça. Au lieu de parler de inshoring, nearshoring, friendshoring, on va aller s'installer dans des pays à bas coût qui sont, entre guillemets, amis ou avec qui on parle. Partage certaines valeurs. Enfin, c'est très, très, très. Et là, justement, je pense que l'Afrique a un coup à jouer, mais extraordinaire. J'espère que certains pays vont pouvoir saisir ces opportunités-là qui sont très, très intéressantes. Très, très intéressantes. Et puis, toutes ces relocalisations-là ou réinvestissements-là qui sont en train de se faire, je pense qu'elles sont derrière un peu une des. sont une des multiples raisons de la petite poussée d'inflation là qu'on a eu ou la poussée d'inflation qu'on a eu au cours des 24-36 derniers mois. Donc c'est intéressant à suivre ça.
On parlait bien évidemment des grandes sociétés avec leur méga pouvoir, le méga pouvoir d'influence, si je peux dire. Mais évidemment, les PME, oui. Portrait légèrement différent. On le disait tantôt, oui. Les ressources sont plus limitées, on est plus exposé à ces changements-là. Donc, évidemment, faut être un peu plus agile. Je pense que ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, les PME sont plus vulnérables à ces bouleversements-là, mais en même temps ont une force que les grandes sociétés ont peut-être un peu moins, c'est-à-dire cette agilité-là, mm-hmm. cette capacité mm-hmm. de pouvoir réagir plus rapidement, de trouver des moyens d'être adaptables. C'est question oui. de la force de l'un et peut-être la faiblesse de l'autre et inversement. Évidemment, quand on parle, je pense d'entrée de jeu à toutes les chaînes d'approvisionnement qui sont perturbées, mais évidemment, ben, ça amène à avoir un peu plus d'exposition à ce risque-là. Cependant, ben, ça peut demander à travers, c'est peut-être plus facile de travailler avec des plus petites séries, de travailler à une diversification des revenus. Il y a des façons qu'on peut regarder comment qu'on peut exploiter ce secteur-là. Évidemment, les risques politiques et réglementaires, ben, on est clairement, on n'a pas la force de lobby que les grands joueurs ont. Donc, faut s'adapter, faut trouver des moyens de s'adapter plus rapidement et d'influencer peut-être indirectement certaines politiques. On a déjà parlé de la cybersécurité et de gestion des données avec Mathieu Cohen notamment, donc je ne veux pas revenir de ce côté-là. Oui. Gestion des talents, je pense que les PME sont très exposées à cet enjeu-là.
Oui, exact.
Je pense à une discussion que j'ai eue avec un dirigeant de PME ici, qui est localisé à Mirabel, en banlieue nord de Montréal. Et lui, il m'expliquait il y a un an comment que, au point de vue COVID, il n'avait pas eu d'influence négative sur ses opérations. Puis il m'expliquait comment que, depuis des années, il investissait en automatisation au niveau de... On parle pas d'intelligence artificielle, mais on parle d'automatisation, de robotiser ces lignes de production. Il dit, alors que tous mes compétiteurs travaillent essentiellement avec de la main-d'œuvre, il dit, moi, mon équilibre, il est différent. Mon pourcentage de robotisation versus main-d'œuvre, ce qui fait en sorte que j'ai pas eu à subir les contre-coups COVID. Mm-hmm. C'est un exemple. Je mets pas en opposition robot versus humain. C'est pas ça la question. L'idée, c'est de réfléchir différemment sur comment il est possible d'opérer et réduire l'exposition à certains risques ou de tirer avantage de certaines forces. Ben, je pense que cette notion-là est importante et peut-être de réfléchir quand on parle de recrutement, rétention des talents, de voir où est-ce qu'on peut maximiser l'apport intellectuel et de la matière grise des talents oui. à l'organisation. Oui. Je pense qu'on peut le voir de cette nature, de cette façon-là, là, oui. en tant que tel.
Ah oui, tout à fait. Et bon, tu le sais, je suis passionné de gestion de connaissances. Je continue à travailler avec Alban et Yoga sur ces domaines-là. Je pense que c'est quelque chose, je crois profondément, qu'il faut continuer à développer à vitesse grand V. Ça reste encore une idée qui est peut-être encore un peu en avant de son temps, mais on continue. Et puis, à chaque fois qu'on a des discussions avec des dirigeants, ça clique assez rapidement. Donc, cette question-là de rétention, de développement des talents mm-hmm. à tous les niveaux de l'organisation, hein, entre guillemets, d'en bas jusqu'en haut, je pense que c'est assez fondamental. Pas juste en termes de gestion de connaissances, mais en termes aussi de valorisation et d'adaptation aux transformations que, comme tu dis, ces mécanismes-là d'automatisation qui vont se développer, démocratisés, vont venir nous impacter d'une manière assez importante. Je pense que c'est fondamental. Hein? Et puis, moi, je parle à quelqu'un que je connais bien ici, qui s'est fait démarcher récemment. Quelqu'un qui gagne pas 6 chiffres ici, en France, là, mais qui s'est fait offrir 250 000 par année pour aller travailler en quelque part. C'est pas nécessairement intéressant pour lui, mais ça l'a quand même très fortement secoué. Et je pense que les entreprises doivent s'ouvrir à ça. Regardez, j'aurais montré ça à mon patron. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour, il n'y a pas juste moi, là. Il y en a peut-être d'autres, mm-hmm. dans la boîte, là, qui se font solliciter comme ça. J'avais travaillé aussi avec une autre entreprise à un moment donné qui, elle, de toute façon, avait arrêté de se développer activement dans le big data. Pourquoi? Parce qu'elle était absolument incapable de retenir ses employés. Absolument incapable. Ils partaient tous pour des grands groupes en France ou à l'étranger, mais ils les formaient un an après, étaient disparus.
Et c'est pour ça, je te dirais, ça me fait penser à toute la notion de culture d'entreprise qu'on parle souvent sur le podcast. Avec un client avec qui je travaille présentement, une de ses priorités stratégiques est justement de revoir l'ensemble du parcours employé, utilisé, on parle de Canva de modèle d'affaires, on l'applique au niveau de l'employé. Il y a une stratégie propre qui est définie de ce côté-là pour s'assurer de maintenir je veux pas faire un minimum viable product ici, un MVP.
Mais je comprends ce que tu dis.
Mais le niveau minimum de talent nécessaire pour soutenir et poursuivre le développement de l'organisation, parce que dans ce cas-là, c'est une organisation de service, ce talent-là est capital, et donc il faut être proactif et gérer cette culture-là de façon dynamique, de façon proactive, s'assurer qu'on a les coups des franges pour maintenir et continuer à développer le talent, parce qu'on sait, on va, comme tu le dis, il va y avoir du démarchage, on va perdre des gens, mais notre façon d'opérer n'est pas à risque. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer de ce minimum requis pour pouvoir s'assurer qu'on n'est jamais à risque? Donc, je pense que c'est drôlement important, et surtout dans une PME, je pense que c'est ce bassin-là d'acteurs, ce bassin-là minimum, conserver notre degré d'attractivité sur le marché, drôlement important. Et compte tenu que les gens cherchent à faire du sens de leur travail, on passe quand même beaucoup de temps dans notre journée à ça. Et là, ça me fait penser à la discussion qu'on avait eue avec Danny Trudel, quand les gens sont responsables de leur propre carrière. L'entreprise peut avoir aussi une influence positive et il faut trouver justement cette bonne façon de danser le tango, là, ça je peux dire de cette façon-là. PME sont capables de faire des belles choses de ce côté-là.
Bien sûr.
Peut-être dernier point, Jean-François, avant de passer à comment est-ce que l'innovation et l'agilité peuvent aider par rapport à ça, j'aimerais peut-être juste compléter un dernier point, je l'ai dit tantôt. Tous les points qu'on parle maintenant relèvent de ce qu'on pourrait appeler de la veille stratégique. C'est pas juste l'apanage des grandes sociétés. Je pense que comme PME, c'est encore plus important. Il faut peut-être s'assurer d'avoir un des membres de la haute direction qui s'assure d'être le porte-voix pour maintenir le haut-parleur ou la loupe, si je peux dire, sur les différents changements politiques, réglementaires, technologiques, les changements environnementaux, du point de vue macroéconomique aussi, et qui se pose la question à savoir comment est-ce que ces variables-là peuvent affecter mon organisation à court terme, à moyen terme ou à long terme, et comment est-ce que les choix que nous faisons peuvent être appelés à changer à la lumière de ça. Je pense que c'est des questions qui restent extrêmement d'actualité et ne pas se les poser, c'est s'exposer ou exposer notre stratégie à des enjeux à des enjeux très difficiles, si je peux dire comme ça.
Quand tu me parles de ça, tiens, je ferais peut-être un petit podcast solo pour parler de la marguerite sociologique que j'ai redécouvert récemment. Moi, pour analyser les organisations, j'ai souvent utilisé les 7 S de McKinsey. Ça me donne un filtre pour commencer à regarder ces choses-là. Et je commence à m'apercevoir que quand on commence à se demander des questions sur les mythes et sur les rituels et sur toutes sortes de petites choses comme ça du côté social de l'organisation, ça me donne quelques idées pour un petit podcast là, pour les prochaines semaines. Voilà. Je pense que c'est intéressant, ça.
Donc, j'aimerais qu'on passe dans notre troisième volet de notre discussion aujourd'hui. Comment est-ce que l'innovation et l'agilité peuvent aider? Bon, évidemment, on est sur un podcast qui s'appelle Innovation, Agilité et Excellence, donc c'est normal parle de ces thèmes-là. Mais on va se le dire, c'est quand même des atouts essentiels pour les organisations, surtout dans ce type d'environnement-là, un environnement qui est autant caractérisé par de l'inflation, les taux d'intérêt élevés que des bouleversements qu'on a mentionnés. En parlant d'innovation, il y a 3-4 éléments qui me viennent en tête. Le premier, bien évidemment, on dit que l'innovation peut prendre différentes formes, mais évidemment, le premier à quoi on pense toujours, c'est développement de produits ou services, que l'innovation dans ce type de développement-là peut permettre à se différencier dans le marché, d'attirer de nouveaux clients, à créer de nouvelles sources de revenus. On a eu un podcast justement là-dessus sur l'élément de explorer les différentes avenues de croissance. Ça, c'est le côté produits-services. Ça m'amène, évidemment, dans le podcast, on parle souvent qu'il faut aller un petit peu plus loin, parler d'innovation, parler de modèles d'affaires innovants, donc d'explorer de nouveaux modèles d'affaires, qu'on parle d'abonnement, qu'on parle de performance, qu'on parle de changement, de modularité des composantes de notre modèle d'affaires. Comment est-ce qu'on est capable de créer une structure plus résiliente, plus ouverte par rapport aux opportunités de marché, passer un petit peu plus large, complexifier notre innovation par notre modèle d'affaires. Deuxième élément. ça n'empêche pas dans ce discours-là de réfléchir en termes d'efficacité opérationnelle. Je pense que c'est drôlement important de capitaliser sur les différentes technologies qu'on parle, notamment depuis tantôt, ou les différentes méthodes qui améliorent notre efficacité, qui font en sorte que notre base de coûts opérationnels soit mieux maîtrisée ou même diminuée pour faire face aux différents enjeux. Je pense que c'est des éléments qui sont importants. Et peut-être, dernier point, mais adapter, quand on parle d'innovation, à différents notre réponse à différents changements qu'on pourrait voir dans le marché. Donc, on parle souvent de « jobs to be done », l'évolution de nos clients, l'évolution des contextes. Mais comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ces changements-là et avoir une structure plus adaptative pour pouvoir justement y répondre plus rapidement et évidemment chercher des sources d'innovation à travers ces opportunités-là? Moi, c'est les quatre grands éléments à quoi ça me fait penser quand on parle d'innovation. Je te laisserai peut-être le micro pour parler un peu plus d'agilité. Je pense qu'il y a aussi des éléments, je pense, qui sont fort intéressants de ce côté-là à explorer.
Quand on parle d'agilité, encore une fois, c'est un peu comme Cédric le disait, se centrer soit sur l'utilisateur, soit sur le client, l'usager. Hein. Donc, il y a deux façons de le voir, mais Véronica dirait dans un premier temps, faites une forme de Gemba Walk, autrement dit, mettez-vous à la place d'un client et faites les démarches et utilisez vos produits et services comme vos clients le font, autant pour les acquérir que pour vous payer, que pour faire ci, que pour faire ça. Et ça peut être source de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements. Puis encore une fois, c'est une façon itérative et incrémentale. Donc, autrement dit, on ne résoudra pas tous les problèmes du premier coup. Mm-hmm. C'est comme je n'éliminerai pas tout le carbone de ma chaîne d'approvisionnement ou de mes activités du premier coup. Est-ce qu'on peut commencer par enlever 2, 3%? On va commencer par des cycles de X semaines, X mois. Puis ensuite, on verra qu'est-ce que ça peut donner et travailler ça à l'envers. Autrement dit, souvent, on parle de management inversé aussi. Le management, maintenant, a moins comme rôle de trouver les solutions et de demander au collectif de les mettre en place. Maintenant, le management, dans certains cas, c'est plutôt prendre les solutions qui émergent, qu'elles ce soit du front office ou du back office, hein, ou voire même des clients, et puis de amener les ressources systémiques, les ressources culturelles, les ressources, tous les aspects des ressources monétaires, bien sûr, pour permettre leur implantation et puis arrêter de se focusser sur une solution, to rule them all. Non, voyons un peu qu'est-ce qui peut fonctionner ici, qu'est-ce qui peut fonctionner là, et puis partageons nos résultats, partageons-nous. Donc, quand on parle d'agilité au niveau de l'organisation, ce n'est pas qu'une façon de faire des projets, ce n'est pas non plus qu'une façon de faire des changements, on parle de changement agile, et c'est aussi un processus pour augmenter le niveau de participation dans nos prises de décision, dans notre innovation, dans notre formulation et notre exécution stratégique. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je passe pas de zéro participation à 100% participatif du jour au lendemain. Non, pas que, en plus de ça, je suis même pas sûr que ce soit souhaitable dans tous les aspects de monter jusqu'à ces niveaux-là de participation. Mais faut s'ouvrir définitivement de plus en plus dans ce monde qui se complexifie avec des solutions possibles qui se démultiplient, c'est incroyable.
Nous clôturons cet épisode en soulignant l'importance de se préparer activement pour 2024. Les défis de 2023 ne sont pas des obstacles, mais des tremplins pour de futures réussites. Et en tant que leader d'entreprise, vous avez le pouvoir de transformer ces défis en opportunités. Je pense à travers notre discussion, il est question d'embrasser l'innovation, cultiver l'agilité et surtout de s'engager dès aujourd'hui à travers des stratégies proactives. Jean-François et moi, on vous encourage bien évidemment à réfléchir aux idées partagées aujourd'hui et à envisager comment elles peuvent être intégrées à votre stratégie et votre réflexion pour une année 2024 couronnée de succès. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes de l'épisode au www.inteliaconsulting.com/épisode145. Et j'aimerais vous rappeler qu'en vous abonnant à notre lettre hebdomadaire où l'on partage nos réflexions et perspectives afin de développer votre impact stratégique, les notes de l'épisode vous sont envoyées directement dans votre boîte de courriel. Et d'ici notre prochaine rencontre, Jean-François, je te souhaite une excellente semaine.
Excellente semaine, Eric, et à vous tous.
Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Au revoir.